fiction ou morceau allégorique sur la révélation. Ce fut durant une belle nuit d'été que le premier homme qui tenta de philosopher, livré à une profonde et délicieuse rêverie, et guidé par cet enthousiasme involontaire qui transporte quelquefois l'âme hors de sa demeure et lui fait pour ainsi dire embrasser tout l'univers, osa élever ses réflexions jusqu'au sanctuaire de la nature, et pénétrer par la pensée aussi loin qu'il est permis à la sagesse humaine d'atteindre. La chaleur était à peine tombée avec le soleil. Les oiseaux déjà retirés et non encore endormis annonçaient par un ramage languissant et voluptueux le plaisir qu'il goûtait à respirer un air plus frais. Une rosée abondante et salutaire ranimait déjà la verdure fanée par l'ardeur du soleil. Les fleurs élançaient de toutes parts leurs plus doux parfums. Les vergers et les bois, dans toute leur parure, formaient au travers du crépuscule et des premiers rayons de la lune un spectacle moins vif et plus touchant que durant l'éclat du jour. Le murmure des ruisseaux, effacé par le tumulte de la journée, commençait à se faire entendre. Divers animaux domestiques, rentrant à pas lents, mugissaient au loin et semblaient se réjouir du repos que la nuit allait leur donner. Et le calme qui commençait à régner de toutes parts était d'autant plus charmant qu'il annonçait des lieux tranquilles, sans être déserts, et la paix plutôt que la solitude. À ce concours d'objets agréables, le philosophe, touché comme l'est toujours en pareil cas une âme sensible où règne la tranquille innocence, livre son cœur et ses sens à leurs douces impressions. Pour les goûter plus à loisir, il se couche sur l'herbe et, appuyant sa tête sur sa main, il promène délicieusement ses regards sur tout ce qui les flatte. Après quelques instants de contemplation, il tourne par hasard les yeux vers le ciel, et à cet aspect qui lui est si familier et qui pour l'ordinaire le frappait si peu, il reste saisi d'admiration, et il croit voir pour la première fois cette voûte immense et sa superbe parure. Il remarque encore à l'occident les traces de feu que laisse après lui l'astre qui nous donne la chaleur et le jour. Vers l'orient, il aperçoit la lueur douce et mélancolique de celui qui guide nos pas et excite nos rêveries durant la nuit. Il en distingue encore deux ou trois qui se font remarquer par l'apparente irrégularité de leur route au milieu de la disposition constante et régulière de toutes les autres parties du ciel. Il considère avec je ne sais quel frémissement la marche lente et majestueuse de cette multitude de globes qui roulent en silence au-dessus de sa tête et qui sans cesse lance à travers les espaces des cieux une lumière pure et inaltérable. Ces corps, malgré les intervalles immenses qui les séparent, ont entre eux une secrète correspondance qui les fait tous mouvoir selon la même direction. Et il observe entre le zénith et l'horizon, avec une curiosité mêlée d'inquiétude, l'étoile mystérieuse autour de laquelle semble se faire cette révolution commune. Quelle mécanique inconcevable a pu soumettre tous les astres à cette loi ? Quelle main a pu lier ainsi entre elles toutes les parties de cet univers ? Et par quelle étrange faculté de moi-même, unie au dehors par cette loi commune, toutes ces parties le sont-elles encore dans ma pensée, en une sorte de système que je soupçonne sans le concevoir ? La même régularité de mouvement que je remarque dans les révolutions des corps célestes, je la retrouve sur la terre, dans la succession des saisons, dans l'organisation des plantes et des animaux. L'explication de tous ces phénomènes ne peut se chercher que dans la matière mue et ordonnée selon certaines lois. Mais qui peut avoir établi ces lois, et comment tous les corps s'y trouvent-ils assujettis ? Voilà ce que je ne saurais comprendre. D'ailleurs, le mouvement progressif et spontané des animaux, les sensations, le pouvoir de penser, la liberté de vouloir et d'agir que je trouve en moi-même et dans mes semblables, tout cela passe les notions de mécanique que je puis déduire des propriétés connues de la matière. Qu'elle en est que je ne connais point et ne connaîtrai peut-être jamais, coordonnées ou organisées d'une certaine manière, elles deviennent susceptibles de sentiments, de réflexions et de volonté, je puis le croire sans peine. Mais la règle de cette organisation, qui peut l'avoir établie ? Comment peut-elle être quelque chose par elle-même ? Ou dans quel archétype peut-elle être conçue existante ? Si je suppose que tout est l'effet d'un arrangement fortuit, que deviendra l'idée d'ordre et le rapport d'intention et de fin que je remarque entre toutes les parties de l'univers ? J'avoue que dans la multitude de combinaisons possibles, celle qui subsiste ne peut être exclue, et qu'elle a dû même trouver sa place dans l'infinité des successions. Mais ces successions mêmes n'ont pu se faire qu'à l'aide du mouvement, et voilà pour mon esprit une source de nouveaux embarras. Je puis concevoir qu'il règne dans l'univers une certaine mesure de mouvement, qui, modifiant successivement les corps, soit toujours la même en quantité. Mais je trouve que l'idée du mouvement n'étant qu'une abstraction, et ne pouvant se concevoir hors de la substance mue, il reste toujours à chercher quelle force a pu mouvoir la matière, et si la somme du mouvement était susceptible d'augmentation ou de diminution, la difficulté deviendrait encore plus grande. Me voilà donc réduit à supposer la chose du monde la plus contraire à toutes mes expériences, à savoir la nécessité du mouvement dans la matière, car je trouve en toute occasion les corps indifférents par eux-mêmes au mouvement et au repos, et susceptibles également de l'un et de l'autre, selon la force qui les pousse ou qui les retient. Tandis qu'il m'est impossible de concevoir le mouvement comme une propriété naturelle de la matière, ne fût-ce que faute d'une direction déterminée, sans laquelle il n'y a point de mouvement, et qui, si elle existait, entraînerait éternellement tous les corps en ligne droite et parallèle, avec une force ou du moins une vitesse égale, sans que jamais le moindre atome pût en rencontrer un autre, ni se détourner un instant de la direction commune. Plongé dans ses rêveries et livré à mille idées confuses qu'il ne pouvait ni abandonner, ni éclaircir, l'indiscret philosophe s'efforçait vainement de pénétrer dans les mystères de la nature. Son spectacle, qui l'avait d'abord enchanté, n'était plus pour lui qu'un sujet d'inquiétude, et la fantaisie de l'expliquer lui avait ôté tout le plaisir d'en jouir. Las enfin de flotter avec tant de contention entre le doute et l'erreur, rebuté de partager son esprit entre des systèmes sans preuve et des objections sans réplique, il était prêt de renoncer à de profondes et frivoles méditations, plus propres à lui inspirer de l'orgueil qu'à du savoir. Quand tout à coup, un rayon de lumière vint frapper son esprit et lui dévoiler ces sublimes vérités qu'il n'appartient pas à l'homme de connaître par lui-même, et que la raison humaine sert à confirmer, sans servir à les découvrir. Un nouvel univers s'offrit pour ainsi dire à sa contemplation. Il aperçut la chaîne invisible qui lie entre tous les êtres. Il vit une main puissante étendue sur tout ce qui existe. Le sanctuaire de la nature fut ouvert à son entendement, comme il l'est aux intelligences célestes, et toutes les plus sublimes idées que nous attachons à ce mot « Dieu » se présentèrent à son esprit. Cette grâce fut le prix de son sincère amour pour la vérité, et de la bonne foi avec laquelle, sans songer à se parer de ses vaines recherches, il consentait à perdre la peine qu'il avait prise et à convenir de son ignorance, plutôt que de consacrer ses erreurs aux yeux des autres sous le beau nom de philosophie. À l'instant, toutes les énigmes qui l'avaient si fort inquiété s'éclaircirent à son esprit. Le cours des cieux, la magnificence des astres, la parure de la terre, la succession des êtres, les rapports de convenance et d'utilité qu'il remarquait entre eux, le mystère de l'organisation, celui de la pensée, en un mot, le jeu de la machine entière, tout devint pour lui possible à concevoir, comme l'ouvrage d'un être puissant, directeur de toutes choses. Et s'il lui restait quelques difficultés qu'il ne put résoudre, leur solution lui paraissant plutôt au-dessus de son entendement que contraire à sa raison, il s'en fiait au sentiment intérieur, qui lui parlait avec tant d'énergie en faveur de sa découverte, préférablement à quelques sophismes embarrassants, qui ne tiraient leur force que de la faiblesse de son esprit. À ces grandes et ravissantes lumières, son âme saisie d'admiration et s'élevant pour ainsi dire au niveau de l'objet qu'il occupait, se sentit pénétrée d'une sensation vive et délicieuse. Une étincelle de ce feu divin qu'elle avait aperçu semblait lui donner une nouvelle vie. Transporté de respect, de reconnaissance et de zèle, il se lève précipitamment, puis élevant les yeux et les mains vers le ciel, et s'inclinant ensuite la face contre terre, son cœur et sa bouche adressèrent à l'être divin le premier et peut-être le plus pur hommage qu'il ait jamais reçu des mortels. Embrasé de ce nouvel enthousiasme, il en eût voulu communiquer l'ardeur à toute la nature. Il eût voulu surtout le partager avec ses semblables. Et ses pensées les plus délicieuses roulaient sur les projets de sagesse et de félicité qu'il se proposait de faire adopter aux hommes, en leur montrant dans les perfections de leur commun auteur la source des vertus qu'ils devaient acquérir, et dans ses bienfaits l'exemple et le prix de ceux qu'ils devaient répandre. « Allons, s'écriait-il transporté de zèle, portons partout avec l'explication des mystères de la nature la loi sublime du maître qui la gouverne et qui se manifeste dans ses ouvrages. Apprenons aux hommes à se regarder comme les instruments d'une volonté suprême, qui les unit entre eux et avec un plus grand tout. à mépriser les mots de cette courte vie, qui n'est qu'un passage pour retourner à l'être éternel dont ils tirent leur existence, et à s'aimer tous comme autant de frères, destinés à se réunir un jour au sein de leur Père commun. C'était dans ces pensées si flatteuses pour l'orgueil humain, et si douces pour tout être aimant et sensible, qu'il attendait le retour du jour, impatient d'emporter un plus pur et plus éclatant dans l'âme des autres hommes, et de leur communiquer les lumières célestes qu'ils venaient d'acquérir. Cependant, la fatigue d'une longue méditation ayant épuisé ses esprits, et la fraîcheur de la nuit l'invitant au repos, il s'assoupit insensiblement en rêvant et méditant encore, et s'endormit enfin profondément. Durant son sommeil, les ébranlements que la contemplation venait d'exciter dans son cerveau lui donnèrent un songe extraordinaire, comme les idées qu'il avait produites. Il se crut au milieu d'un édifice immense, formé par un dôme éblouissant, que portaient 7 statues colossales au lieu de colonnes. Toutes ces statues, à les regarder de près, étaient horribles et difformes. Mais par l'artifice d'une perspective adroite, vue du centre de l'édifice, chacune d'elles changeait d'apparence et présentait à l'œil une figure charmante. Ces statues avaient toutes des attitudes diverses et emblématiques. L'une, un miroir à la main, était assise sur un pan dont elle imitait la contenance vaine et superbe. Une autre, d'un œil impudent et d'une main lascive, excitait les objets de sa sensualité brutale à la partager. Une autre tenait des serpents nourris de sa propre substance, qu'elle arrachait de son sein pour les dévorer et qu'on y voyait renaître sans cesse. Une autre, squelette affreux, qu'on eût su distinguer de la mort qu'à l'étincelante avidité de ses yeux, rebutait de vrais aliments pour avaler à longs traits des coupes d'or en fusion qui l'altéraient sans la nourrir. Tout enfin était distingué par des attributs effroyables, qui devaient en faire des objets d'horreur, mais qui, vu du point d'où elles paraissaient belles, semblaient être les ornements de leur beauté. Sur la clé de la voûte étaient écrits ces mots en gros caractères « Peuple, servez les dieux de la terre ». Directement au-dessous, c'est-à-dire au centre du bâtiment et au point de perspective, était un grand autel heptagone sur lequel les humains venaient en foule offrir leurs offrandes et leurs vœux aux 7 statues qu'ils honoraient par 1000 différents rites et sous 1000 bizarres noms. Cet autel servait de base à une 8e statue à laquelle tout l'édifice était consacré et qui partageait les honneurs rendus à toutes les autres. Toujours environnée d'un voile impénétrable, elle était perpétuellement servie du peuple et n'en était jamais aperçue. L'imagination de ses adorateurs la leur peignait d'après leur caractère et leur passion, et chacun, d'autant plus attaché à l'objet de son culte qu'il était plus imaginaire, ne plaçait sous ce voile mystérieux que l'idole de son cœur. Parmi la foule qui affluait sans cesse en ce lieu, il distingua d'abord quelques hommes singulièrement vêtus, et qui, au travers d'un air modeste et recueilli, avaient dans leur physionomie je ne sais quoi de sinistre, qui annonçait à la fois l'orgueil et la cruauté. Occupé à introduire continuellement les peuples dans l'édifice, il paraissait les officiers ou les maîtres du lieu et dirigeait souverainement le culte des 7 statues. Il commençait par bander les yeux à tous ceux qui se présentaient à l'entrée du temple. Puis, les ayant ainsi conduits dans un coin du sanctuaire, il ne leur rendait l'usage de la vue que quand tous les objets concouraient à la fasciner. Que si, durant le trajet, quelqu'un tentait d'ôter son bandeau, à l'instant, il prononçait sur lui quelques paroles magiques, qui lui donnait la figure d'un monstre, sous laquelle, abhorré de tous et méconnu des siens, il ne tardait pas d'être déchiré par l'assemblée. Ce qu'il y avait de plus étonnant, c'est que les ministres du temple, qui voyaient à plein toute la difformité de leurs idoles, ne les servaient pas moins ardemment que l'aveugle vulgaire. Ils s'identifiaient pour ainsi dire avec leur affreuse divinité, et recevant en leur nom les hommages et les dons des mortels, chacun d'eux leur offrait pour son intérêt les mêmes vœux que la crainte arrachée au peuple. Le bruit continuel des hymnes et des chants d'allégresse jetait les spectateurs dans un enthousiasme qui les mettait hors d'eux-mêmes. L'autel qui s'élevait au milieu du temple se distinguait à peine au travers des vapeurs d'un encens épais qui portait à la tête et troublait la raison. Mais tandis que le vulgaire n'y voyait que les fantômes de son imagination agitée, le philosophe plus tranquille en aperçut assez pour juger de ce qu'il ne discernait pas. L'appareil d'un continuel carnage environnait cet autel terrible. Il vit avec horreur le monstrueux mélange du meurtre et de la prostitution. Tantôt on précipitait des tendres enfants dans des flammes de bois de cèdre. Tantôt des hommes faits étaient immolés par la faute d'un vieillard décrépit. Des pères dénaturés plongeaient en gémissant le couteau dans le sein de leur propre fille. De jeunes personnes dans une parure élégante et pompeuse, qui relevait encore leur beauté, étaient enterrées vives pour avoir écouté la voix de la nature, tandis que d'autres étaient livrées en cérémonie à la plus infâme débauche. Et l'on entendait à la fois par un abominable contraste les soupirs des mourants avec ceux de la volupté. « Ah ! » s'écria le philosophe épouvanté. « Quel horrible spectacle ! Pourquoi mes regards en sont-ils souillés ? Hâtons-nous de quitter ce séjour infernal ! » !»« Il n'est pas temps encore, » lui dit en le retenant l'être invisible qui lui avait déjà parlé. « Tu viens de contempler l'aveuglement des peuples, et il te reste à voir quel est en ce lieu le destin des sages. » À l'instant, il aperçut à l'entrée du temple un homme exactement vêtu comme lui, et dont l'éloignement l'empêcha de distinguer les traits. Cet homme, dont le port était grave et posé, n'allait point lui-même à l'autel, mais touchant subtilement au bandeau de ceux qu'on y conduisait, sans y causer de dérangement apparent, il leur rendait l'usage de la vue. Ce service fut bientôt découvert par l'indiscrétion de ceux qui le recevaient. Car la plupart d'entre eux, voyant en traversant le temple la laideur des objets de leur culte, ils refusaient d'aller à l'autel et tâchaient d'en dissuader leurs voisins. Les ministres du temple, toujours vigilants pour leur intérêt, découvrirent bientôt la source du scandale, saisirent l'homme voilé, le traînèrent au pied de l'autel et l'immolèrent sur le champ aux acclamations unanimes de la troupe aveuglée. En tournant les yeux vers l'entrée voisine, le philosophe y vit un vieillard d'assez mauvaise mine, mais dont les manières insinuantes et le discours familier et profond faisaient bientôt oublier la physionomie. Aussitôt qu'il se présenta pour entrer, les ministres du temple apportèrent le bandeau sacré. Mais il leur dit « Homme divin, épargnez-vous un soin superflu pour un pauvre vieillard privé de la vue qui vient sous vos auspices chercher à la recouvrer ici. Daignez seulement me conduire à l'autel afin que je rende hommage à la divinité et qu'elle me guérisse. » Comme il affectait de heurter assez lourdement les objets qui étaient autour de lui, l'espoir du miracle fit oublier d'un mieux constater le besoin. La cérémonie du bandeau fut omise comme superflue, et le vieillard fut introduit, appuyé sur un jeune homme qui lui servait de guide, et auquel on ne fit nulle attention. Effrayé de l'aspect hideux de cette statue, et du sang qu'il voyait ruisseler autour de la huitième, ce jeune homme tenta 20 fois de s'échapper, et de fuir hors du temple. Mais retenu par le vieillard d'un bras vigoureux, il fut contraint de le mener, ou plutôt de le suivre, jusqu'à l'enceinte du sanctuaire, pour observer ce qu'il voyait, et travailler un jour à l'instruction des hommes. Aussitôt l'aveugle prétendu, sautant légèrement sur l'autel, découvrit d'une main hardie la statue et l'exposa sans voile à tous les regards. On voyait peinte sur son visage l'extase avec la fureur. Sous ses pieds, elle étouffait l'humanité personnifiée, mais ses yeux étaient tendrement tournés vers le ciel. De la main gauche, elle tenait un cœur enflammé et de l'autre, elle acérait un poignard. Cet aspect fit frémir le philosophe, mais loin de révolter les spectateurs, ils n'y virent, au lieu d'un air de cruauté, qu'un enthousiasme céleste, et sentirent augmenter pour la statue ainsi découverte le zèle qu'ils avaient eu pour elle sans la connaître. « Peuple !» leur cria d'un ton plein de feu l'intrépide vieillard qui s'en aperçut. « Quelle est votre folie de servir des dieux qui ne cherchent qu'à nuire, et d'adorer des êtres encore plus malfaisants que vous ? Loin de les forcer par d'indiscrets sacrifices à songer à vous pour vous tourmenter, tâchez plutôt qu'ils vous oublient, vous en serez moins misérables. Si vous croyez leur plaire en détruisant leurs ouvrages, que pouvez-vous espérer d'eux, sinon qu'ils vous détruisent à leur tour ? Servez celui qui veut que tous soient heureux, si vous voulez être heureux vous-même. » Les ministres ne lui permirent pas de poursuivre, et l'interrompant à grand bruit, ils demandèrent au peuple justice de cet ingrat, qui pour prix d'avoir, disait-il, recouvré la vue sur l'autel de la déesse, osait en profaner la statue et en décrier le culte. Aussitôt tout le peuple se jeta sur lui, prêt à le mettre en pièces. Mais les ministres, voyant sa mort assurée, voulurent la revêtir d'une forme juridique, et le firent condamner par l'assemblée à boire l'eau verte, sorte de mort souvent imposée aux sages. Tandis qu'on préparait la liqueur, les amis du vieillard voulurent l'emmener secrètement, mais il refusa de les suivre. « Laissez-moi, leur dit-il, aller recevoir le prix de mon zèle de celui qui en est l'objet. En vivant parmi ces peuples, ne m'étais-je pas soumis à leurs lois, et dois-je les enfreindre au moment qu'elles me couronnent ? Ne suis-je pas trop heureux, après avoir consacré mes jours au progrès de la vérité, de pouvoir lui consacrer encore la fin d'une vie que la nature allait me redemander ? Ô mes amis, l'exemple de mon dernier jour est la seule instruction que je vous laisse, ou celle au moins qui doit donner du poids à toutes les autres. Je serais soupçonné de n'avoir vécu qu'en sophiste, si je craignais de mourir en philosophe. » Après ce discours, il reçut la coupe des sages, et l'ayant bu avec un air serein, il s'entretint paisiblement avec ses amis, de l'immortalité de l'âme et des grandes vérités de la nature. que le philosophe écouta d'autant plus attentivement qu'elle se rapportait à ses précédentes méditations. Mais le dernier discours du vieillard, qui fut un hommage très distinct à cette même statue qu'il avait dévoilée, jeta dans l'esprit du philosophe un doute et un embarras dont il ne se tira jamais bien. Et il fut toujours incertain si ces paroles renfermaient un sens allégorique ou simplement un acte de soumission au culte établi par les lois. Car, disait-il, si toutes les manières de servir la divinité lui sont indifférentes, c'est l'obéissance aux lois qu'il faut préférer. Cependant, il restait toujours entre cette action et la précédente une contradiction qui lui parut impossible à lever. Frappé de tout ce qu'il venait de voir, il réfléchissait profondément sur ces terribles scènes. Quand tout à coup, une voix se fit entendre dans les airs, prononçant distinctement ces mots. « C'est ici le Fils de l'homme, les cieux se taisent devant lui, terre, écoutez sa voix. » Alors, levant les yeux, il aperçut sur l'autel un personnage dont l'aspect imposant et doux le frappa d'étonnement et de respect. Son vêtement était populaire et semblable à celui d'un artisan, mais son regard était céleste, son maintien modeste, grave et moins apprêté que celui-même de son prédécesseur. Ses traits avaient je ne sais quoi de sublime, où la simplicité s'alliait avec la grandeur, et l'on ne pouvait l'envisager sans se sentir pénétré d'une émotion vive et délicieuse, qui n'avait sa source dans aucun sentiment connu des hommes. « Ô mes enfants, dit-il d'un ton de tendresse qui pénétrait l'âme, je viens expier et guérir vos erreurs. Aimez celui qui vous aime, et connaissez celui qui est. » À l'instant, saisissant la statue, il la renversa sans effort. Et montant sur le piédestal avec aussi peu d'agitation, il semblait reprendre sa place, plutôt qu'usurper celle d'autrui. Son air, son ton, son geste causèrent dans l'assemblée une extraordinaire fermentation. Le peuple en fut saisi jusqu'à l'enthousiasme. Les ministres en furent irrités jusqu'à la fureur, mais à peine était-il écouté. L'inconnu populaire et ferme, en prêchant une morale divine, entraînait tout. Tout annonçait une révolution. Il n'avait qu'à dire un mot, et ses ennemis n'étaient plus. Mais celui qui venait détruire la sanguinaire intolérance n'avait garde de l'imiter. Il n'employa que les voix qui convenaient aux choses qu'il avait à dire et aux fonctions dont il s'était chargé. Et le peuple, dont toutes les passions sont des fureurs, en devint moins zélé pour sa défense. Après le témoignage de force et d'intrépidité qu'il venait de donner, il reprit son discours avec la même douceur qu'auparavant. Il peignit l'amour des hommes et toutes les vertus, avec des traits si touchants et des couleurs si aimables, qu'or les officiers du temple, ennemis par état de toute humanité, nul ne l'écoutait sans être attendri, et sans en aimer mieux ses devoirs et le bonheur d'autrui. Son parler était simple et doux, et pourtant profond et sublime. Sans étonner l'oreille, il nourrissait l'âme. C'était du lait pour les enfants et du pain pour les hommes. Il animait le fort et consolait le faible, et les génies les moins proportionnés entre eux le trouvaient tous également à leur portée. Il ne haranguait point d'un ton pompeux et soutenu, mais ses discours familiers brillaient de la plus ravissante éloquence, et ses instructions étaient des fables et des apologues, des entretiens communs mais pleins de justesse et de profondeur. Rien ne l'embarrassait. Les questions les plus captieuses que le désir de le perdre lui faisait proposer avaient à l'instant les solutions dictées par la sagesse. Il ne fallait que l'entendre une fois pour être sûr de l'admirer toujours. On sentait que le langage de la vérité ne lui coûtait rien, parce qu'il en avait la source en lui-même.